La morale, elle s'en fout pas mal. Et comme elle aime aussi les filles, elle va se prendre la Bastille.
Je ne suis pas littérature, je ne suis pas photographie, ni décoration, ni peinture, ni traité de philosophie. Je ne suis pas ce qu'on murmure aux enfants de la bourgeoisie. Je ne suis pas saine lecture, ni sirupeuse poésie. Je ne suis Je ne suis pas morceau choisi, je serais plutôt le contraire de ce qu'on trouve en librairie. Je ne suis pas guide ou bréviaire, ni baratin, ni théorie, qu'on range entre deux dictionnaires ou sur une table de nuit. Je ne suis la pâte, je ne viens pas d'une écurie. Non, je ne suis pas diplomate, je n'ai ni drapeau ni patrie. Je ne suis pas rouge écarlate, ni bleu, ni blanc, ni cramoisi. Je suis d'abord un cri pirate de ces cris-là qu'on interdit. De plaisance, ni gueulante de comédie. Le cri qu'on pousse en apparence pour épater la compagnie. Moi, si j'ai rompu le silence, c'est pour éviter l'asphyxie. Oui, je suis un cri de défense, un cri qu'on pousse à la folie. Je ne suis je vous dérange, je voudrais être un autre cri, être le cri de la mésange ou celui d'un oiseau.
Allez, Radio Libertaire 89.4 FM en Ile-de-France, bonjour et bienvenue à tout le monde. Vous êtes dans l'émission Médias et Antifascisme sur le 89.4 FM en Ile-de-France. Alors, notre émission est présente tous les deuxièmes vendredis du mois à 11h30. Si vous ne nous connaissez pas encore, on est à l'antenne de Radio Libertaire depuis octobre 2024. Avant ça, on avait une autre émission en 2020, mais voilà, sous sa forme actuelle, notre émission existe depuis octobre 2024. Vous le savez, du coup, vous le savez sûrement maintenant, mais notre but, c'est de parler de tout ce qui est droitisation, extrême droitisation du champ médiatique, au sens plus ou moins large. Et donc, nous sommes le 10 juillet. Juste une chose avant de commencer, de vous rappeler comment est-ce que vous pouvez nous joindre, comment est-ce que vous pouvez soutenir la radio aussi. Au mois d'août, pas d'émission, parce que il y aura la maintenance annuelle de nos locaux. Ceci dit, on se retrouvera sûrement au mois de septembre, on vous tiendra informé. Et si vous voulez nous écrire, je vous rappelle nos adresses, notre adresse mail et aussi comment nous joindre sur les réseaux. Notre adresse mail, c'est médias et antifascisme@protonmail.com. Nos comptes Facebook et Blue Sky, c'est Médias et antifascisme, tiré du milieu, Radio Libertaire 89.4 FM en IDF. Sur Instagram, c'est médias au pluriel, tiré du bas et tiré du bas antifascisme, tiré du bas RL. Sur Mastodon, c'est via le serveur todon.eu que vous pouvez nous écrire, via l'arrobase média au pluriel, tiré du bas et tiré du bas antifascisme, tiré du bas RL, tiré du bas IDF. Et si vous voulez nous écrire par courrier, vous pouvez le faire à l'adresse de la librairie du Monde Libertaire Publico, 145 rue Amelot, 75 011 Paris. Et pour soutenir financièrement la radio, vous avez rendez-vous sur radio-libertaire.org dans la rubrique Nous soutenir, vous pouvez télécharger le bon de souscription et le retourner complété au 145 rue Amelot, 75 011 Paris ou envoyer un chèque à l'ordre de DMC. Aujourd'hui, du coup, on reçoit un invité de marque, je pense qu'on peut le dire comme ça, un invité de marque qui lance un nouveau projet, qui jusqu'au mois de février dernier présentait une émission hebdomadaire sur le Média TV. Alors déjà, première, je vais commencer par te saluer, Mourad Guichard, es-tu avec nous ?
Alors attendez, 75 011 Paris, voilà. C'est bon, j'ai tout noté pour vous contacter. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être présent sur cette antenne. Je vais faire le vieux daron, les souvenirs de vieux daron. Mon histoire avec Radio Libertaire a commencé, je crois, à l'hiver 1981, si mes souvenirs sont bons. Et donc, nous écoutions à la maison, nous écoutions à la fois Léo Ferret, et Radio Libertaire, donc je suis extrêmement, mais vraiment, je le dis, d'abord, c'est pas de la flagornerie, puisque j'ai aucun intérêt à le faire, je suis extrêmement honoré d'être votre invité aujourd'hui.
Eh bien,
nous on est aussi.
Effectivement, on est extrêmement honoré de te recevoir, nous de notre côté. Déjà, ça nous fait chaud au cœur ce que tu nous dis là. Puisque pour les gens qui le savent pas, Radio Libertaire existe depuis 1980, si je dis pas de bêtises.
Oui, alors, c'est ça, 80,
ouais. Ouais. Après, faut savoir, mais ça tu le sais mieux que moi, Mourad Guichard. En fait, effectivement, la radio a obtenu une fréquence sur la FM en 1983 ou 84, je sais plus. Mais toujours disait-il que pendant un certain temps, Radio Libertaire émettait sans autorisation, en bonne et due forme.
c'était le sel de voilà, ni Dieu ni maître. C'était le sel de la fréquence, effectivement, d'avoir démarré. En radio dite libre, voire pirate à l'époque, puisqu'effectivement, vous n'aviez pas d'autorisation.
Effectivement. Ceci dit, aujourd'hui, on en a encore une, je dirais. Non pas que l'ARCOM nous fasse des menaces régulières, mais c'est plutôt le manque d'argent qui nous en fait. C'est pour ça que c'est pour ça que je vous ai rappelé comment est-ce que vous pouvez nous envoyer des dons. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'avant toute chose, même si je vais peut-être présenter aussi Johan, ou en tout cas, je vais te
bonjour,
saluer.
Bonjour à toutes.
Bonjour Johan. Bonjour. Merci de m'accueillir.
Voilà, je me posais la question.
Merci de venir. On fait la petite présentation. Militant antifasciste, un peu fatigué, mais j'ai du café, donc voilà. Mais très content de t'accueillir, Mourad.
Merci beaucoup.
On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui.
Et effectivement, alors on va parler de pas mal de choses, mais c'est vrai que avant de commencer, parce qu'on a moi ce que j'aimerais commencer par parler de ton nouveau projet, Mourad. Mais c'est vrai que avant toute chose, parce que on va commencer avec ça. L'émission que tu présentais jusqu'au mois de février, on est d'accord, c'était L'œil de Moumou, hein, c'était une fois par semaine. Alors effectivement, et même là, je pense que dans ton nouveau projet, c'est la question de l'ARCOM est quelque chose que tu vas aborder assez régulièrement. Mais pourquoi est-ce que je démarre tout de suite en parlant de ça? C'est parce qu'en fait, depuis 2024, en tout cas en 2024 et en 2025, obligé d'expliquer, après il y a une logique derrière ça, mais on est obligé d'expliquer aux auditrices et auditeurs précisément ce qu'est le fonds de soutien à l'expression radiophonique, le FSER, hein, comme on l'appelle. Et effectivement, c'est ça n'a pas toujours été une dotation de l'État, mais maintenant c'en est une, qui est à destination de toutes les radios associatives, hein, quelles qu'elles soient. Après, il y a des radios associatives qui peuvent être subventionnées aussi par d'autres canaux, ce qui n'est pas notre cas. Nous, on reçoit le FSER, qui à l'origine est une taxe sur la publicité diffusée en radio. En radio, j'allais dire peut-être en télé aussi, mais non, il me semble que c'est exclusivement en radio. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est une source d'argent non négligeable pour nous, et il y a fort à parier que, avec le budget qui va arriver à l'automne, qui sera, je l'imagine, encore meilleur que celui de l'année dernière, nous serons obligés de reparler sûrement du FSER, parce que en 2024, Monsieur Barnier, Premier ministre, voulait nous enlever, alors à toutes les radios associatives, hein, ils font une coupe générale, voulait enlever un tiers à ce fonds de soutien à l'expression radiophonique. L'année dernière, Monsieur Lecornu voulait en enlever la moitié, donc peut-être que cette année 2026, peut-être qu'il n'y aura plus de FSER du tout, je ne sais pas. Jusqu'ici, ça a tenu notamment parce que, on sait bien que le Sénat n'a pas le dernier mot sur ces trucs-là, mais enfin, au Sénat, par exemple, même la droite était contre les coupes dans le FSER, quoi. Et après, nous, on était un peu inquiets parce qu'en 2024, quand il y avait eu déjà cette proposition qui avait été faite, c'était en commission de je ne sais plus quoi, commission des affaires culturelles, oui, c'était ça exactement, commission des affaires culturelles, Rachida Dati avait promis à Philippe Ballard, là, le député du RN, ancien de LCI, que certes, en 2024, on ne couperait pas dans le FSER, mais qu'en 2025, on ferait le tri et qu'on ne donnerait plus, hein, quand je dis on, c'est l'État, que l'État ne donnerait plus qu'aux radios qui sont dans l'arc républicain. Et elle dit ça à Philippe Ballard du RN. Bon, pour le moment, on est peut-être toujours, nous, dans l'arc républicain, je sais pas. Je suis pas sûr que notre vocation originelle, c'était d'être tout à fait dans l'arc républicain. Mais dans tous les cas, ça, c'était la petite parenthèse pour commencer. Et je pense qu'on va pouvoir c'était la petite parenthèse par rapport aussi à ce que tu nous disais, Mourad, comme quoi tu écoutais, ça te rappelait, tu nous écoutais en 81, c'est bien ça?
Oui, absolument. Alors, sur cette question des financements qui est non seulement intéressante, mais surtout importante, moi, je fais partie des gens qui militons, parce que je pense que c'est un devoir à la fois professionnel de journaliste, mais un devoir citoyen. C'est évidemment pour qu'on ait une ARCOM qui soit plus efficiente, c'est-à-dire qu'elle soit pas nommée par le pouvoir, qui soit totalement indépendante. Et d'ailleurs, il y a une actualité qui est intéressante à regarder. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé des Sleeping Giants. Donc, vous savez, c'est ce groupement venu des États-Unis, enfin inspiré des États-Unis, anti-Trump, qui alerte les marques sur les réseaux sociaux, qui a une très très grande influence. Et surtout un auditoire très important, et qui en fait très poliment, très simplement alerte les marques qui ne sont pas, on va prendre une marque d'enseigne de supermarché XY, on s'en fout, mais qui alerte les marques en leur disant bonjour, nous connaissons vos valeurs et il semblerait que votre présence, donc vos publicités sur le site de Valeurs Médias, Valeurs Actuelles, frontières ne correspondent pas à ces valeurs, voilà. Et donc, quand ils sont alertés, dans 90% des cas, en fait, les marques vont demander à leur régie publicitaire de retirer ces fameuses publicités. Et donc, leur but, c'est d'assécher financièrement tous les sites d'extrême droite, tous les sites qui ont été condamnés pour apologie de racisme, de ségrégation, de tout ce que vous voulez. Bon, évidemment, on pense à CNews en premier lieu. Et donc, ça marche pas mal. Mais parallèlement, nos amis des Sleeping Giants, donc qui sont anonymes pour des raisons de sécurité et qui sont pourchassés par Bolloré sans succès, on font des saisines régulières auprès de l'ARCOM. Et là, ils viennent de poster, alors c'est sur leur blog Mediapart, qu'on retrouve assez facilement, hein, Sleeping Giants Mediapart, ils viennent de poster tous les refus qu'ils ont eus de l'ARCOM. Et donc, ils écrivent, je vous le fais court, ainsi en rejetant ou ignorant les saisines, l'ARCOM a considéré, donc l'ARCOM c'est le gendarme, hein, de l'audiovisuel notamment, a considéré que la chaîne pouvait Donc on parle de CNews. Opposer la France qui serait civilisée à l'immigration qui ne le serait pas, ça c'est Golnadel, l'avocat d'extrême droite pro-israélienne. Inventer de toutes pièces un casier judiciaire pour discréditer la victime du tir d'un policier, ça c'est Charlotte Dornelas, à propos du gamin tué à Nanterre. Sans aucun fait ou déclaration pour appuyer son propos, accuser un ministre de racisme anti-blanc et d'être un nazi, ça c'est Céline Pina, mais il y en a plein, donc je ne vais pas tous vous les citer. Il y a évidemment aussi Massé Scarron, il y a aussi Klarsfeld, enfin toute la bande que vous connaissez. Et donc, je fais partie des gens qui militent pour que l'ARCOM soit plus efficiente, d'une part, et sanctionne plus lourdement, et que l'argent qui actuellement, je crois, va au CNC, au Centre National du Cinéma, soit reversé aux médias indépendants, dont évidemment Radio Libertaire, et qu'il y ait une répartition, une espèce de clé de répartition des amendes qui sont infligées ou qui seraient plus largement et plus précisément infligées jusqu'à fermeture de la chaîne à une chaîne comme CNews, soit reversée notamment à tous les médias que vous connaissez indépendants et également aux radios indépendantes comme la vôtre. Donc la question du financement, oui, c'est évidemment tout à fait central.
Surtout qu'on peut signaler que on prêche pas que pour notre paroisse, hein, et je pense que c'est aussi pour ça que les sénateurs se sont emparés de la défense du fonds pour les radios locales. C'est que ça représente, alors j'ai oublié les chiffres, d'habitude j'ai les chiffres, mais entre 300 et 600 radios sur le territoire, et c'est pas que des radios étiquetées à gauche ou à l'extrême gauche. Ça profite à l'emploi local, à l'emploi intellectuel local et à développer une culture locale forte qui permet de faire perdurer des identités en fait, qui sont en majorité détruites par la mondialisation et par le capitalisme. Donc voilà, je pense que c'est une très très bonne initiative et que on a besoin de cet argent et que il faut le prendre à ceux qui en ont.
Exactement, c'est l'idée et j'insiste sur ce que tu viens de dire. J'étais invité à Besançon sur Radio Sud Besançon qui, comme beaucoup d'autres radios, organise effectivement. Hein, je suis entièrement d'accord avec toi. Organise régulièrement des festivals. Des journées. Là, moi, j'avais été invité alors pour une émission et puis également à intervenir à une journée contre le racisme organisée à Besançon par l'ancienne municipalité. Alors, ça a basculé malheureusement. Mais voilà. Donc les radios, oui, contribuent largement. Les radios indépendantes contribuent largement à la vie associative, à la vie culturelle locale là où ils sont effectivement implantés.
Puis on peut le dire aussi que, alors c'est pas forcément ce qu'on défend ici dans notre émission ou à Radio Libertaire, mais que d'un point de vue de la social-démocratie, de la démocratie libérale, qui est malheureusement, et on se retrouve en tant que personne de gauche ou d'extrême gauche, parfois un peu à la défendre, parce que même dans ses fondements, elle est attaquée actuellement et elle nous garantit quelques droits humains qui sont des plus importants, que la diffusion d'informations vérifiées, vérifiables et justes, et leur circulation dans la société, garantit le débat démocratique et l'information est un droit pour toutes les citoyennes et pour tous les citoyens. Donc voilà, et je pense qu'on peut se souvenir, je crois que c'est sur la dernière affiche des Bobards d'Or, où vraiment... oui,
les Bobards d'Or,
oui, tu rigoles, mais tu sais pourquoi. Donc c'est Le Gallou, l'extrême droite de la nouvelle droite qui font ça. Ils représentent les médias, donc le micro, voilà, donc c'est ceux qui mentent, mais ils nous représentent avec l'antifascisme dans le micro. C'est-à-dire que pour eux, par essence, pour l'extrême droite, pour cette partie de l'extrême droite, l'information en soi est par essence antifasciste. Alors, oui, malheureusement, on aimerait que ça soit le cas dans tous les médias de France, mais oui. Ouais.
Alors, vous en avez sûrement parlé, mais je tiens à repréciser Parce que énormément de gens, y compris des camarades, pour parler simplement, tombe dans le panneau de l'OJIM, O-J-I-M.
Oui, on en a parlé avec notre ami Thierry Vincent, mais enfin, c'était l'année dernière, on peut en reparler avec plaisir. Vas-y, je te laisse développer.
Alors, globalement, tout ce qui démarre par observatoire, il faut a priori faire gaffe, alors qu'il y avait un observatoire, par exemple, de la laïcité, bon, ça, c'était tout à fait clean, mais tout ce qui est observatoire de l'immigration, de la démographie, de l'information et des journalistes et ainsi de suite, tout ça c'est l'extrême droite. C'est un peu, vous savez, comme les parents vigilants là, ou je sais plus quoi, enfin bref.
Oui, ça c'est Zemmour.
C'est plus de Zemmour et compagnie. Et donc l'OJIM, dont j'ai eu l'honneur d'être l'un des premiers à être fiché, je sais pas pourquoi, mais peut-être que je cumule. Je cumule beaucoup de choses entre Morad et islamo-gauchiste, je pense que voilà, ils avaient une cible parfaite. À l'époque où j'étais à Libé. Et donc j'avais eu droit à ma fiche avec bourré, mais vraiment, littéralement bourré de mensonges. Ils me rendent toujours. D'ailleurs, si vous tapez mon nom sur OJIM, vous allez tomber dessus. Ils disent que j'ai été candidat, je sais pas quoi, aux élections municipales, ce qui n'a jamais été le cas à Orléans. Enfin bref, que je suis près d'un truc communautaré. Enfin bref, ils sont sur des délires complètement complotistes. Et donc ça a été créé par Jean-Yves Le Gallo. Alors le Gallo, pardon. Alors je rappelle quand même que ce garçon a quitté le Front National, l'estimant trop à gauche, à l'époque de Jean-Marie Le Pen. Hein, je ne sais pas aujourd'hui. Et il a été député européen, si mes souvenirs sont bons, pour le Front National. Et donc il a créé ce fameux observatoire qui est en fait un fichage. Hein, je ne sais pas s'ils sont basés ou situés rue Lauriston, mais c'est exactement un fichage comme à la belle époque. Des journalistes qu'il faut traquer, suivre, dont il faut se méfier, et ainsi de suite. Et évidemment, que ce ne sont que des gens présumés à gauche, ou, comme on dit aujourd'hui, je le redis, islamo-gauchistes, wokistes, enfin tout ce que vous voulez. Donc, faites vraiment gaffe. L'OJIM, c'est un outil pour l'extrême droite, c'est un outil de fichage des journalistes. Donc, voilà, je le redis, faites vraiment très, très attention aux sources, et je vois régulièrement, et je termine là-dessus, pardon, je vois régulièrement des copains, des copines, qui, parce que le discours à ce moment-là leur plaît, par exemple, si l'OJIM se paye Laurent Geoffrin, ça va dans notre sens plutôt, et donc ils vont prendre comme lien ce l'OJIM sans réaliser qu'ils sont en train de relayer un site d'extrême droite, et donc souvent prend le temps d'aller en message privé et puis de les prévenir, et généralement ils retirent, mais même des gens éclairés ne sont pas au courant, donc faites vraiment très attention.
Et puis cette tendance à afficher, il y avait eu le fameux fichier de F2 Souche, j'ai oublié la date, 2008, 2019, 2020 et peut-être un peu plus, où il y avait eu quand même 5000 personnes dans un très beau tableau Excel. Donc ça allait de juste journaliste à islamo-gauchiste, avec les noms, les adresses, médias et ce qui est reproché. Frontière a fait le fichier, alors des avocats qui défendent des personnes en situation de migration sur notre territoire. Et on voit que mécaniquement... en fait, ils sont vraiment dans une mécanique de plus en plus puissante de fichage pour cibler, soit en ligne, soit politiquement, soit quand ils arriveront au pouvoir, l'ensemble des oppositions ou des gens qu'ils considèrent comme leur ennemi idéologique à restreindre administrativement ou non, ou empêcher une manière qui leur plaira, quoi.
Ah oui, bien sûr. Alors j'ai aussi eu le privilège de faire partie d'une liste avec mon compte Twitter, avec mon nom, mon prénom, ma profession et mon compte Twitter, de l'ancien... Alors c'était juste après 2014 et les événements à Gaza. C'était le porte-parole de l'ambassade d'Israël. Alors qu'elle est disparue, on ne le voit plus. Mais qui aussi, l'ambassade d'Israël a sa liste, fait ses listes aussi de gens indésirables. Alors on ne sait pas à qui le diffuse, mais enfin, n'empêche qu'on a réussi à se procurer cette fameuse liste. Et c'était évidemment toujours les mêmes profils. Donc, on revient clairement à la belle époque.
Super. Et pour ceux qui n'étaient pas au courant, la rue Lauriston, en fait, c'était l'adresse de la grande carlingue. Donc, il y avait plusieurs carlingues. La carlingue, c'était, si je me trompe pas administrativement, c'est la Gestapo française.
C'est ça.
Et du coup, Bonnie, la belle époque, entre guillemets, des truands, qui du coup dépouillait. Arrêter, dépouiller les juifs français, les juifs et les juives françaises, pour transférer les fonds, les biens à l'occupant allemand.
Absolument. Il y avait aussi des nombres de résistants qui sont passés par la rue Lauriston, qui ont été torturés avant d'être déportés.
Oui. Et ils faisaient, bien sûr, les locataires de la rue Lauriston faisaient des grandes bacchanales avec tous ces capitaux volés, spoliés, arrachés dans le sang et la douleur à toutes les personnes juives et toutes les personnes résistantes qui tombaient sous leurs mains.
Absolument. Et puis, comme l'histoire se répète, on aura quelques années plus tard, c'est quand même fou, hein, y a un truc que je pointe assez régulièrement, c'est cette fascination totale et absolue et cette revendication quasiment pour le gaullisme, parce que il y a une tendance à idéaliser De Gaulle. Alors De Gaulle, évidemment, je suis reconnaissant à ce qu'il a fait pendant l'occupation, là-dessus il n'y a pas de souci. Sauf que derrière, on peut dire la même chose, toute proportion gardée, hein, bien sûr, on peut dire la même chose pour Pétain. Pétain a joui de son truc sur Verdun et sur la Première Guerre mondiale pour pouvoir faire ce qu'il a fait pendant la Seconde. Et donc je trouve que, je le redis, toute proportion gardée, on attribue à une espèce de romantisme à l'époque de Gaulle, en oubliant légèrement deux trois babioles, comme par exemple les essais nucléaires dans les colonies, notamment en Algérie, notamment dans les dom-toms. On oublie la nomination de Papon, le collabo, comme préfet de police. On oublie le massacre des Algériens jetés dans la Seine en octobre 61. On oublie deux trois babioles et on oublie peut-être aussi un tout petit peu le SAC. Le service d'action civique, donc c'était une police politique qui avait tous les pouvoirs, y compris auprès de la police républicaine. Et ça, c'est d'avoir créé, que De Gaulle ait créé, enfin ait aidé à créer, que ce soit la résurgence de ça, c'était peut-être sous Pompidou, enfin en tout cas c'était avec, comment il s'appelle, c'était avec des enfants de Gaulle. Dont Pasqua, d'avoir créé une milice politique quelques années finalement après la vraie milice. Je trouve ça assez dingue et qu'on idéalise cette période là de Gaulle, Pompidou, en oubliant tout ça. Je trouve ça un peu léger, quoi, politiquement et historiquement.
Le SAC, c'est 10 000 personnes, hein. Faut s'imaginer, c'est une police politique d'environ 10 000 personnes. Pasqua va faire ses échelons dedans. Alors, je sais qu'il y a une autobiographie, enfin une biographie historique de Pasqua là, qui est sortie, qui est très intéressante, parce que c'est vraiment, il est de droite et d'extrême droite, mais c'est un super militant. C'est vraiment, si vous voulez vous former au militantisme, lisez la biographie de Pasqua, parce que c'était vraiment un homme qui arriver à trouver les bonnes personnes, à mobiliser dans des délais très courts pour organiser des meetings à l'autre bout de la France. Et puis, en fait, il a adapté, ce qui est très intéressant avec lui et avec le SAC en général, c'est qu'en fait, tout ce qu'ils ont appris pendant la résistance, ils l'ont adapté à leur police politique. Et pour Pasqua, lui, il l'a adapté à ses activités professionnelles parce qu'il était commercial chez Pernod Ricard. Et donc,
oui, absolument.
Et donc, il faisait le coup de main avec ses garçons pour vendre du Ricard. Il les a organisés comme une cellule paramilitaire. Mais ce qu'il faut pas oublier, et ça, c'est le deuxième point, c'est que je pense à donc Quentin Doran qui avait nommé son groupe Allobroge Bourgoin. Et Allobroge, c'est la section de résistance. Donc au nord d'Annecy-Chambéry, qui sont morts dans le petit massif. Alors j'ai oublié des glissières, Les Glières, voilà, c'est ça.
Les Glières, le plateau des Glières.
Ouais, oui, le plateau des Glières. Et en fait, c'était une des sections mortes là-bas. Donc, c'était des jeunes gens plus ou moins organisés, qui étaient organisés par un capitaine de la résistance. Et sur 400 jeunes hommes qui attendaient un débarquement d'armes venant des Britanniques, il y en a plus de, sur les 400, il y a 250 qui sont morts, quoi. Et donc, ces gens-là, les néo-fascistes actuels, reprennent des imaginaires de la résistance antifasciste, que ce soit la résistance gaulliste ou notre résistance à nous, anarchiste et communiste, pour se mobiliser eux-mêmes, avec l'idée que l'occupant, c'est plus l'occupant nazi, mais c'est l'occupant étranger, musulman, noir, arabe, racisé, et jusqu'à se donner de noms de groupes, des gens qui les auraient combattus 70 ans plus tôt, quoi.
Mmh, bien sûr, bah oui, mais c'est une inversion totale. C'est une inversion totale des valeurs, de l'accaparement culturel historique de la part de l'extrême droite depuis maintenant quelques décennies. C'est la fameuse normalisation, dédiabolisation, enfin, on l'appelle comme on veut. Mais ça passe aussi par ça. Ça passe par s'approprier des valeurs qui sont les nôtres, qui sont de notre filiation, de se les accaparer de façon à passer pour, effectivement, mais c'est, tu l'as très bien dit, pour des résistants à la fois à l'étranger, mais aussi à la cinquième colonne, puisque c'est l'expression qu'ils emploient, à la cinquième colonne qui serait de l'intérieur, pilotée par LFI, pour draguer les jeunes de banlieue grâce à l'antisémitisme et ainsi de suite. Et c'est complètement, je veux dire, il faut avoir fait quasiment Sciences Po pour s'y retrouver. Et c'est sur ce flou artistique organisé qu'il compte pour attirer un maximum de voix, évidemment.
Et c'est là où on en veut beaucoup, je pense, aux médias traditionnels. C'est-à-dire que pendant des années, ils se sont prévalus d'une sorte de totem d'immunité en disant « Nous, on a fait des études pour faire ça. » On est censé avoir une culture historique, politique, qui nous permette d'analyser les situations, qu'elles soient nationales ou internationales. Et en fait, il y a eu un renoncement et une adhésion. Je pense qu'il y a eu un double mouvement dans le même temps de la classe bourgeoise médiatique qui a abandonné ses valeurs libérales, mais au terme politique, hein. Et même, faut pas oublier que l'AFP était une agence de la résistance, hein, au début. Et du coup, son héritage de résistance antifasciste pour se rouler dans la fange avec l'extrême droite. Mais quand on voit Quotidien. Il y a 10 ans, qui quand même faisait des reportages sur le RN, se moquait d'eux, mettait en lumière le patron de Rivarol, donc qui est un vichiste, néo-nazi, enfin de la pire espèce. C'est assez terrible, et j'exhorte vraiment, et je pense qu'il faut exhorter ces gens qui nous écouteraient à se remettre en question et peut-être à resserrer un peu la vis. Quand on voit Guillaume Herner qui relaie des montages sans à peine avoir vérifié l'information parce que ça lui plaît idéologiquement, tout en invitant Marine Le Pen, l'invitant à réagir sur cet audio montage, pardon, et que toute la rédaction de France Culture arrive quand même à amener il a une sanction, il a eu un blâme ou quelque chose comme ça, mais en fait cette personne à 8 mois, 9 mois des présidentielles ne devrait plus être sur des ondes qui sont censées être d'intérêt public. Alors, je trouve ça terrifiant.
Moi aussi. Alors, c'est d'ailleurs la raison d'être de, notamment de cette nouvelle chronique, donc qui s'appelle Mon œil. Que on est passé en quelques années de patrons type Bouygues, père et fils, Dassault, père et fils, et ainsi de suite, avec beaucoup de races d'ailleurs, On est passé de ces, ce qu'on appelait de manière un peu romanesque de capitaine d'industrie qui avait tout intérêt à fond perdu, enfin pas perdu pour tout le monde, mais à fond perdu à maintenir des journaux et des médias comme TF1 ou Le Figaro pour être bien vu des pouvoirs, alors du pouvoir national, mais aussi des pouvoirs locaux. Mais c'est aussi comme ça que sont nées les chaînes d'info en continu, parce qu'ils n'avaient plus d'espace. Ils n'avaient que l'espace du 20h, en fait, de la grand-messe du 20h sur les chaînes généralistes. Et donc, ils ont aussi créé ces fameuses chaînes d'info en continu pour avoir un espace où ils puissent inviter encore plus de monde. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est à peu près 200 personnes qu'il faut, hein, pour avoir une... 200 invités, ce qui est complètement dingue, pour faire tenir une chaîne 24 heures durant. Et ça permet de balayer un peu, d'avoir plus de monde, plus d'élus locaux, d'élus départementaux, et ainsi de suite. Et ça fait marcher la machine. On est passé de ça à très clairement et c'est évidemment Bolloré l'emblème. On est passé à quelqu'un qui effectivement va aussi à fond perdu, mais là pour le coup non plus avec une volonté d'avoir des marchés ou voilà d'armement ou de choses ou de bâtiments ou de ce que vous voulez, mais pour de manière totalement idéologique. Et là, on change complètement de créneau. Alors, la chose la plus marquante que j'ai pu observer, puisque je fais de la critique média depuis à peu près... je fais ce métier depuis 30 ans, et la critique média, ça fait à peu près depuis 20 piges, pour le Canard Enchaîné, l'UMA, Libération, et voilà. Et puis, donc, au Média TV récemment, et puis maintenant à mon compte, que avant, moi, j'observais que vous aviez des journalistes, alors plutôt jeunes ou un peu moins jeunes, qui rentraient dans le moule de TF1 par exemple, vous voyez, du Figaro, parce qu'ils sortaient de l'école de journalisme et qu'il fallait plaire à la rédaction en chef et qu'ils se fondaient un peu dans le moule. Là, on est exactement dans l'inverse. C'est-à-dire que là, on recrute non plus des journalistes, mais on recrute des jeunes militants. Alors moi, je dis en déconnant qu'il doit y avoir une ferme des mille collines quelque part dans le Var où ils sont formés. Et donc ils recrutent non plus des journalistes, mais des purs militants identitaires, racelards, et que on est très très loin de l'information, on est dans quelque chose d'excessivement militant. Mais le problème qu'ils ont, et c'est souvent comme ça à droite et à l'extrême droite d'ailleurs, et je prends souvent l'exemple des maires, vous savez, les maires sans étiquette.
Oui.
Tous les maires sans étiquette que j'ai connus sont tous de droite. Quand on est de gauche, a priori, on le revendique. Et en fait, là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils ne se revendiquent jamais, la caricature étant évidemment les racelards, les néonazes de frontières, Jean-Ban Florentin et toute sa bande, Éric Tegner, qui doit être un tout petit peu occupé par ses affaires judiciaires en ce moment, parce qu'en plus, il y a ça derrière. Eux ne se revendiquent pas comme étant d'extrême droite. C'est quand même extraordinaire. Ils devraient être fiers de dire qu'ils sont d'extrême droite, qu'ils sont identitaires, qu'ils sont nationalistes, racelards. Mais comme ils sont justement de ce bord-là, ils ne le revendiquent pas. Et donc, ils donnent l'impression de faire des enquêtes, de faire des reportages. CNews, par exemple, la caractéristique première de CNews, à part ces plateaux de racelards, et de fachos et de condamnations multiples pour ça, donc c'est pas mon point de vue que je donne, hein, c'est la justice qui a parlé, c'est qu'ils ne produisent absolument rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de reportage, il n'y a pas d'enquête, il n'y a que des... un peu comme Franc-Tireur d'ailleurs, hein, le magazine d'Enthoven et de Forest, il n'y a que des points de vue mis bout à bout, sans aucune base, sans aucune source et sans aucune, très souvent... sans aucune réalité statistique, scientifique, que ce soit sur le climat, sur l'immigration, sur tous les sujets que vous voulez, les toutologues n'avancent que des points de vue qui ne sont même pas étayés, donc qui reposent sur rien du tout. Et comme je le dis souvent, moi je donne rarement mon avis parce que mon avis on s'en fout complètement. Ce qui compte c'est les faits. C'est la comparaison des faits et le reste, ça, c'est aux gens de se faire leur point de vue.
Et pourquoi c'est grave de pas donner des faits et de faire ce qu'ils font? C'est que quand vous allez mourir dans votre perchoir thermique, ou quand votre grand-père, votre père, votre enfant qui est resté 10 minutes dans la voiture parce que vous pensiez que c'était OK, va en fait mourir de chaud en plein été Voilà, ces gens-là, eux, vont diffuser un climat d'incertitude, de relativisme, qui vont convaincre une partie de la population de soutenir des politiques qui nous amèneront juste à accepter. Parce que quand ils disent qu'il faut s'adapter, ils ne parlent pas juste de s'adapter au changement climatique, ils parlent de laisser mourir. Et ça, c'est très important. On va vers... en partie à cause du centre, et ça on le dit pas assez, le centre a ouvert un boulevard à l'extrême droite incroyable, justement parce que ils étaient pas étiquetés d'extrême droite, et je pense que ça nous a en partie désarmés collectivement.
Bien sûr.
Mais 10 ans d'inaction climatique, de discours relativistes sur le climat, sur ses effets, et ça, ils savent très bien faire, de communication politique. C'est des extrêmement bons communicants qui assoupissent les gens, qui font croire qu'on fait des choses, mais qui font diversion en permanence, une sorte de faits divers constants. Ça nous amène à ça. Aux morts, il y a 40 000 personnes qui meurent de la pollution atmosphérique dans ce pays. Il y a les scandales d'État que sont le chlordécone. Enfin, je relisais les chiffres dans les Antilles. C'est 80 à 90% de la population qui est attaquée par le chlordécone, ce qui va causer des malformations, des cancers de la prostate, notamment pour les personnes hommes. On est du crime de l'humanité, enfin contre l'humanité et sur notre territoire. Et cette logique du laisser mourir. Et je reprends Johan Chapoutot et Ingrao et tous leurs collègues, ce n'est que le début du faire mourir après. Le laisser mourir en Méditerranée, le laisser mourir de par le changement climatique provoqué par le capitalisme, ce n'est que le début d'une autre logique qui va amener l'État à faire mourir les gens en masse avec tous les dispositifs qu'ils ont mis plus de 10 ans, 15 ans à radicaliser, que ce soit les dispositifs de police administrative ou politique ou de police du quotidien, quoi.
Bien sûr. Alors, deux choses rapidement là-dessus. Si on n'a pas cette donnée-là que tu viens de rappeler, par exemple, on ne comprend pas évidemment, la défiance, pour pas dire la méfiance, ou inversement, la méfiance pour pas dire la défiance, de ces populations d'outre-mer, ces populations colonisées, vis-à-vis du Covid. Oui. Quand il y a eu l'affaire des vaccinations de masse, qu'il y ait eu cette défiance après toutes les saloperies qu'on leur a envoyées, je peux entendre qu'ils se méfient un tout petit peu du pouvoir central vis-à-vis de ce qu'on leur impose. Donc voilà, c'est cette, alors qu'ils aient tort ou raison, c'est pas la question. La question, c'est qu'il y ait eu une défiance. Moi, je l'entends parfaitement. Les colonisés ont peut-être effectivement des petits soucis avec le pouvoir central sur ces questions-là. L'autre chose, puisqu'on parle médias, c'est le relais médiatique. Alors, ça s'est un tout petit peu calmé, mais de manière assez générale, vous avez, notamment, je pense au reportage à la con là, de TF1 ou de France 2 avec Léa Salamé.
Mon Dieu. Mon Dieu, que Dieu nous délivre de Léa Salamé, quoi. Franchement, moi, je me cotise, on lui paye des vacances à vie, et en plus, je sais que individuellement, c'est pas le cas, parce qu'ils mettront quelqu'un d'autre de pire à sa place. Mais vraiment, Madame Salamé, arrêtez, on vous en supplie. Lisez des livres, faites des choses, je suis sûr, vous pouvez faire plein de choses bien, mais pas ça, quoi.
Non, non, bah, lire des livres ou les colorier, enfin, on s'en fout, mais le, Non, c'est pas gentil. Tous ces TPMP, ce que j'appelle moi les TPMP pour Bobo, c'est-à-dire quotidien, quelle époque et compagnie, à la limite, qui se cantonnent à ce genre de merde, de trucs bidonnés, ils chouinent assez, je me rappelle quotidien d'ailleurs, parce qu'ils n'avaient pas la carte de presse. Bah ouais les gars, vous ne faites pas du tout du journalisme, donc pour vous détendre un tout petit peu. Et oui, je disais donc que dans les journaux, sur la question climatique, même si ça s'est, comme je le disais, un tout petit peu calmé, on a quand même toujours le droit aux petites, au mois de novembre, le 28 novembre, allez. 28 novembre, on a droit au petit Antoine qui est tout content d'être en terrasse à Bordeaux parce qu'il fait 28 degrés et qui mange une glace et que après il va aller à la plage parce que il fait un super soleil et que tout va bien, sans réaliser qu'ils sont en train de faire exactement le fameux don't look up. Qui sont en train de faire la promotion du dérèglement climatique, sans réaliser, comme tu le disais très justement, sans réaliser que, comme pour les Antilles, il y a des dizaines et des centaines de morts, voire des milliers de morts chaque année à cause du dérèglement climatique. Il y a des gens qui crèvent sous les toits. On va reprendre la phrase de Barthes. Ouais. Voilà, sous les toits, mais qui viennent chouiner devant les caméras parce qu'il fait juste 41 degrés sous les toits et que c'est invivable et que ce petit bourgeois de merde avec sa clim sur son plateau ne réalise absolument pas l'horreur de ce qu'il dit. Et je précise qu'après avoir dit cette horreur, c'est-à-dire il a crié après deux témoignages, hein, je le dis pour les gens qui ont eu la chance de pas le voir, il a crié après deux témoignages diffusés de jeunes gens, en plus des étudiants dont on imagine qui sont pas forcément fortunés, qui habitent sous les toits et qui s'en plaignaient, il a crié « On s'en fout !» Heureusement, d'après moi, j'ai revu plusieurs fois la scène, sur le plateau, personne n'a réagi. Alors que, généralement, le public, c'est un peu des clapataires, hein, c'est-à-dire qu'ils sont là pour applaudir, pour rigoler au coup de feu. Là, personne n'a rigolé à sa vanne pourrie. Il a été critiqué de part et d'autre, y compris sur le service public et certaines émissions comme c'est à vous, c'est dans l'air, c'est ce soir, c'est demain, c'est après-demain. Enfin bon, les émissions à la con là du service public. Et ben, il est revenu le lendemain en disant tout le monde,
Christine. Ouais. Ça voilà. Vraiment et, ça. Hein.
Donc il s'en fout. Il tire même pas les conséquences de ce truc-là. Il fait même pas amende honorable. Et pareil pour Erner, qui n'a toujours pas, à l'heure à laquelle nous nous parlons, n'a toujours pas présenté ses excuses à Jean-Luc Mélenchon. Il a juste parlé d'une bourde. Et moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que Guillaume Erner était tellement content de tomber sur ce montage qui correspondait à son narratif. Tout le monde l'est antisémite. Dont LFI, qu'il l'a diffusé de manière militante et volontaire, parce que ça correspondait à son narratif, que ce n'est pas du tout une erreur, et que on a en plus du tout une erreur, c'est quoi cette liaison à la con, c'est pas du tout une erreur, et que on a un nombre important de témoignages en interne à France Culture, je le précise que je n'écoute plus depuis plusieurs années, parce que Finkielkraut avait invité Renaud Camus en toute décontraction, donc Renaud Camus, le théoricien du grand remplacement, en toute décontraction, et je me suis dit non, là c'est terminé, je ne peux plus écouter cette antenne. Et donc on sait en interne qu'il avait été alerté par les équipes de France Q que ce montage était plus que douteux, mais il l'a quand même diffusé, comme tu l'as dit, face et avec une certaine bienveillance face à Marine Le Pen, afin qu'elle puisse elle-même se dédouaner de son père et des propos antisémites de son père. Bref, c'était un passage de plat assez remarquable.
Ce qu'il faut pas oublier, alors je pense c'est pas du tout pour enlever sa judéité à Guillaume Erner, mais moi je me souviens d'une de ses chroniques sur Superman. Parce que, pour les personnes qui ne savent pas, Superman est d'ascendance juive, en fait. C'est un personnage qui a été créé notamment, alors plutôt sioniste, malheureusement. Mais si on reprend le narratif, donc le Krypton explose et un enfant sort vivant et va sur une autre planète. Et voilà, et donc dans les débuts de BD, il y a l'étoile de David, en fait, à la place du S de Superman. Donc c'était à la sortie d'un nouveau film sur Superman, je sais pas, 2018-2020, et Guillaume Erner disait que il trouvait que la judéité de Superman était trop affirmée dans l'apparence d'Henry Cavill. Si je me souviens bien, je cite de tête. Et que lui, il était vraiment sur une posture où il fallait cacher, enfin, quelque chose qui, pour plein d'immigrés ou de gens issus de l'immigration, de racisme intériorisé, enfin, on comprend, mais de cacher sa judéité et de reprocher des traits de juif à une représentation culturelle, ce qui est quand même, enfin, je pense que c'est assez grave que ces propos aient pu être tenus à l'antenne et qu'on n'ait pas vu de l'antisémitisme là-dedans, quoi.
Oui, parce que le problème avec Erner, c'est que c'est un multirécidiviste. Oui. Ce serait, on le reprécise toujours, mais on a tous le droit à l'erreur. Bien simplement, sûr. quand l'erreur, avec beaucoup de guillemets pour le coup, devient une ligne éditoriale, c'est là que ça pose problème. Et c'est le cas d'Erner. Et Erner s'est fait piéger alors avec un autre man, pas Superman mais Schneiderman. il s'est fait piéger alors qui Daniel Schneiderman, qui est le Superman de la critique média, hein, je le dis en passant.
Oui.
Il s'est fait piéger.
Oui.
Parce que est ressorti la fameuse interview qu'il a faite. Qu'il a donné à Daniel Erner, où il dit à Daniel Schneiderman, il lui dit qu'il est juif, mais Daniel lui répond, je dis Daniel parce que on se connaît depuis longtemps, et puis j'ai eu le plaisir de le recevoir à plusieurs reprises et je le recevrai encore. Daniel lui dit mais qu'est-ce que vous en savez? Et là il est tout con parce que pardon, on sort d'un échange où entre les deux, où il explique dans son bouquin ce que relève Daniel Schneiderman, qu'il n'y a plus de juifs à la direction d'LFI. Il dit, mais qu'est-ce que vous en savez? Comment vous les reconnaissez, les juifs? Et là, il est tout con. Parce que qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire que c'est les noms de famille? Non. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire que c'est des reconnaissances physiques? Non. Et donc, il est piégé une première fois, et ensuite piégé une deuxième fois, lorsqu'il dit à Daniel Schneiderman qu'il ne cache pas son positionnement très à gauche. Hein. Il va lui dire qu'il est juif. Alors pourquoi il fait ça? Parce que en sioniste convaincu, il va appliquer exactement la même règle que le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, qui veut enfermer l'ensemble de nos compatriotes de confession ou de culture juive. Ils veulent les enfermer dans ce qu'ils appellent la communauté qu'eux-mêmes seraient censés représenter dans leur globalité, et donc les enfermer dans une communauté complètement imaginaire qui serait un soutien indéfectible à Israël et qui serait un soutien indéfectible au sionisme. Et donc ils sont dans cette RNR et dans cette logique-là. Ils croient. Ils veulent, ces gens-là, instaurer une communauté. Et moi, alors, je prends un de mes, enfin plusieurs d'ailleurs de mes amis qui sont, par exemple, de Tzedek ou de l'UJFP. Ouais, tous ces camarades-là, dont je suis extrêmement proche, se disent clairement et anti-sionistes et anti-coloniaux. Et donc ces camarades-là, qui revendiquent leur judéité, par ailleurs, tomberaient sous le coup de la loi, la fameuse loi à la con, la Berger-Yadan, pour antisémitisme, alors qu'ils sont eux-mêmes juifs et qu'ils se revendiquent comme tels. Et donc là, on marche complètement sur la tête, et des gens comme Erner, pour finir mon propos, pardon, j'étais un peu long, mais des gens comme Erner sont des bras armés. Et d'ailleurs, j'avais exhumé, je sais pas si vous l'aviez vu, mais j'avais exhumé une vidéo de 2018, je crois, du responsable d'Elnet, le lobby israélien implanté aux États-Unis, en France et un peu partout en Europe. Le lobbyiste d'Elnet France disait face cam sur I24 News que l'ALICRA, le CRIF et je sais plus quoi d'autre étaient des bras armés de ce groupe de pression et de ce groupe de lobbying en France pour l'ALICRA et le CRIF étaient des bras armés qui étaient là pour relayer une propagande
politique, une propagande idéologique et coloniale en France et dans tous les pays où ils sont implantés. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est le mec le reconnaît face cam tellement il était à l'aise. Il reconnaissait ce truc-là, c'est absolument, je trouve ça absolument hallucinant.
Et ce qui est terrible dans le sionisme, c'est que c'est un projet qui est aussi antisémite, qui est fondamentalement en partie antisémite, parce qu'il a été développé par les puissances occidentales, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Enfin, le sionisme juif né avant, donc 1908, dans mes souvenirs, j'ai oublié le nom de la conférence, j'en suis désolé.
C'est le cas avant, c'est 1898, voilà, hein, si je me rappelle bien.
Je me trompe de 10 ans. Et du coup, voilà, mais que quand les rescapés des camps... la question se pose des rescapés des camps, et je sais plus à quelle conférence après 45, la question se pose de où les accueillir. Aucun pays ne signe. Il y a un seul pays qui signe, mais c'était un pays d'Amérique latine pour blanchir sa population. Et on a, et de par ça, de rendre responsable une partie des descendants du génocide et de la communauté juive en général, qui est des communautés juives plutôt, qui ont vécu des centaines d'années d'oppression dans différents pays, responsable de la zone d'influence européenne et américaine au Moyen-Orient, et de leur faire payer le prix du sang à eux principalement. Moi, je vois quand même un antisémitisme étatique, international, forcené. Ce qui n'enlève pas, dans le même temps, la responsabilité de l'État d'Israël, des soldats et des soldats de Tsahal dans le génocide qu'ils font à Gaza et au sud du Liban. Mmh.
Bien sûr. Alors, je fais toujours attention avec le mot de Tsahal, parce que ça veut dire notre armée. Hein.
Oui, je sais. Ça vient. Ouais. Ça s'est inspiré du manifeste de l'armée nouvelle de Jaurès en partie.
Oui, voilà. Donc j'essaie de pas employer ce terme-là. L'armée génocidaire. Si on prend sur le côté médiatique, hein, qui nous intéresse, j'avais dénoncé, alors c'était en novembre, je crois, 2023, novembre-décembre 2023, donc juste après le 7 octobre, j'avais dénoncé la manière dont les médias, notamment BFM TV, présentaient, idéalisaient, faisaient passer pour des héros les jeunes. Alors c'était toujours des jeunes blonds aux yeux bleus, c'est marrant, ou jeunes blondes aux yeux bleus, franco-israélien qui partait, voilà, vous voyez, genre le Superman, on va revenir à Superman, tiens, qui plaquait tout, qui quittait Krypton pour aller en Israël participer à ce qui va devenir un génocide. Mmh. Et donc ils avaient complètement idéalisé, et ça a duré comme ça via Rutel Krief, via tous les porte-paroles, les porte-étendards de cette idéologie criminelle. C'est allé jusqu'à il y a quelques jours, vous pouvez retrouver ça assez facilement sur les réseaux sociaux, jusqu'à il y a quelques jours, là, il y a deux jours je pense, soudainement sur le plateau donc d'LCI, alors LCI c'est Pujadas qui laisse en roue libre Caroline Fourest développer toute sa propagande pro-génocidaire et son révisionnisme militant, ainsi que Rutel Krief et ses mensonges, et pareil, ça, ses thèses militantes pro-israéliennes, et tout le monde les antisémites, hein, évidemment, ça va sans dire. Ils ont découvert que peut-être les implantations illégales en Cisjordanie étaient un crime de guerre, et peut-être qu'il fallait enfin les condamner. Alors je sais pas ce qui s'est passé. Mais tout le monde sur le plateau s'entendait pour dire que quasiment tout le monde, parce qu'il y avait une exception, mais quasiment tout le monde sur le plateau il découvrait l'illégalité des. Alors moi, je me rappelle que j'avais.
Non, je t'écoute.
Oui, j'avais appelé à l'éradication de ces saloperies, de ces pourritures de colonies illégales, parce que simplement elles violaient le droit international. J'avais été traité d'antisémite. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils avaient rajouté le mot juif dans mon propos, alors que vous imaginez que je puisse dire un truc pareil. C'est évidemment, je répondais à Rima Hassan, qui parlait de nouvelles implantations en plein génocide, de nouvelles implantations en Cisjordanie. Donc évidemment, j'avais rappelé qu'il fallait appeler à l'éradication totale. Enfin, on ne peut pas tolérer ces colonies criminelles et ces colons criminels qui, en toute impunité, volent des terres, assassinent, volent des maisons. Enfin, c'est pas possible. Là, enfin, ils reconnaissent qu'il y a peut-être un problème avec les implantations illégales. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, enfin, ça s'est passé. Mon taf, pour être précis, c'est donc toutes les semaines maintenant, donc avec mon œil, j'ai commencé avec Guillaume Meurice au début juin. Là, on est en pause, mais on reprend fin août. C'est de décrypter tout ça, de regarder tout ça et d'essayer de vous présenter. Malheureusement, il y a très peu de choses positives, mais de vous présenter tout ce qui dysfonctionne. De façon à ce que vous soyez au courant, parce que je note que de plus en plus vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à ne plus regarder la télé, et je l'entends parfaitement, et je pense que vous avez un peu raison. Je pense qu'on va vivre de notre vivant, par définition, on va vivre la fin de la télévision, et comme on va vivre la fin de la radio filaire, hein, j'entends. Parce que les générations qui arrivent là, moi je suis père de famille nombreuse, les générations qui arrivent ne regardent absolument plus la télé et ne regardent absolument plus, enfin, n'écoutent plus la radio, et n'ont que des réflexes de réseaux sociaux. Et donc d'extraits, de pioches, de podcasts, éventuellement dans le meilleur des cas. Mais je pense vraiment qu'on va vivre la fin de la télévision. Et la télévision, ils sont pas cons, ils le savent très bien. D'où leur présence massive sur les réseaux sociaux, d'où leur clash, leur buzz à la con, qui vont découper ensuite et qui vont balancer sur les réseaux pour avoir de la visibilité. Mais vraiment, vraiment, je pense sincèrement qu'on va assister à la fin d'un monde médiatique. Et l'IA, l'intelligence artificielle aidant, il va y avoir de plus en plus besoin, et on n'est pas trop nombreux à le faire. Il y a besoin de décryptage médiatique. Je pense que c'est un enjeu essentiel, d'autant que évidemment se profile une échéance électorale particulière et majeure dans quelques mois.
Ouais. Il y a, en fait, ils essayent de recalibrer les flux, c'est-à-dire que maintenant ils font passer une partie de leurs flux, comme t'as dit, donc sur les plateformes, donc que ça soit leur émission sur YouTube ou monter sur TikTok ou sur Instagram. Mais là, je sais qu'il y a un accord qui est passé, je crois sur TF1, mais je suis plus sûr, où TF1 va être directement balancé dans Netflix.
Et absolument.
Et du coup, ils essayent de faire des alliances pour leur continuer d'apporter une rente et des capitaux. Donc, ils se laisseront pas mourir aussi facilement, même si je pense qu'ils vont mourir. Mais il y a aussi un autre bonne nouvelle, c'est que les jeunes lisent. Les jeunes lisent pas mal d'articles, en tout cas dans mes sphères militantes. Il n'y a pas une semaine où, quand il y a une actualité qui sort, on ne me demande pas un article de l'Humanité, tout ce qui est un paywall. On essaye de trouver via des petits stratagèmes comme le site archive.ph où on renseigne l'URL et ça fait sauter certains paywalls. Malheureusement, plus l'Humanité, désolé pour les camarades, mais on n'a plus d'argent, donc voilà. Mais une. Et puis de deux, il y a aussi il y a trois choses que je voudrais dire. Il y a dans ce qu'on fait, dans ce que tu fais, Mourad, et dans ce que font les militantes et les militants, nous devons rendre à leur humanité des gens qui l'ont perdu. Et quand tu cites ce plateau de LCI qui revient un peu, peut-être très temporairement, et je l'espère, pas que temporairement, et peut-être sur une plus longue durée, Alors Humanité, on a fait un peu le taf, mais notre vrai souci, c'est d'avoir des rouleaux compresseurs politiques et médiatiques, que ce soit dans l'organisation, la coordination, et ça on a encore beaucoup de mal, qui réhumanisent des gens en masse sur le long terme et le plus vite possible avec les échéances qui arrivent. Sur la question de la propagande israélienne, moi ce qui m'a beaucoup... ils ont réussi un truc formidable. Ils ont réussi à faire du bruit médiatique qui leur permettrait de massacrer, de génocider des gens pendant plus de 2 ans. C'est une réussite totale. C'est incroyable ce qu'ils ont fait d'un point de vue de la communication politico-militaire. Ça veut dire que ils avaient des éléments de langage très ciblés. Ils ont enclenché, moi je l'ai vu dès le début et ça marchait même sur des militants de gauche, la question de savoir si c'était un génocide ou pas. Moi je suis arménien, donc la question de la reconnaissance du génocide voilà, est très importante, mais je sais aussi, par exemple, un des pièges de la question, c'est de s'épuiser sur politiquement sur la reconnaissance et ne plus avoir d'énergie pour rien faire, ou ne plus avoir temps ou toujours être assigné à ce débat là alors que il y a des urgences politiques à lutter. Et je pense que on est tombé collectivement dans ça, que ce soit l'ensemble de la France ou des militants politiques de gauche au début, et qu'on est sorti de ça et que les gens commencent à sortir de ça et que voilà. Mais c'est impressionnant, oui, ce qu'ils ont réussi à faire.
Oui, alors juste pour finir sur ce sujet-là, je recevais le comédien et humoriste Kevin Razi, oui, la semaine dernière, je crois. Oui. Il nous disait, c'est quand même dingue que, et je trouve que c'est un bon résumé, il dit c'est quand même dingue que je connaisse le nom du porte-parole de l'armée israélienne. Mmh. Ça n'existe pas. Et de l'ambassadeur d'Israël en France, mmh, qui est H24 sur les plateaux. Alors que l'ambassadrice palestinienne, moi je la connais, mais je veux dire, personne ne connaît son nom. Mmh. Et ça raconte quelque chose. En plus, ils sont invités sans contradiction particulière. C'est aller jusqu'à Marc-Olivier Fogiel et puis un triste sire là, je sais plus comment il s'appelle, Christophe Play, je crois, ou c'était
Guillaume Play.
Guillaume Play, merci. Sur lequel j'avais eu.
Il y a une enquête du Monde qui vient de sortir, une enquête vidéo du Monde qui vient de sortir sur son média. Là, il y a 2 jours.
Alors. Il se trouve que j'ai retrouvé un vieux papier de 2014, je crois, que j'avais fait avec Charb, qui avait fait le dessin, il s'est amusé pour énergie à mimer, ou je sais pas trop ce que c'était, de quel ordre c'était, mais enfin, il faisait l'apologie du harcèlement de rue auprès de jeunes filles, à qui il disait « donne-moi une raison de pas t'embrasser ». Voilà, que ce soit de la comédie ou pas, on s'en fout. Le principe, c'est qu'il faisait l'apologie de ça, du harcèlement de rue, et il incitait des jeunes gens un peu naïfs à faire la même chose, à aller dire à une fille dans la rue « donne-moi une raison de pas t'embrasser », puisque vous avez cette connerie encore. Donc oui, c'est quelqu'un de très dangereux, et ça date pas d'hier. Mais lui et Marc-Olivier Fogiel ont invité un terroriste d'État, ancien responsable du Mossad, qu'ils appelaient James Bond, le James Bond moderne, alors que le mec est à la tête d'un nombre de crimes d'État incalculables. Je trouve ça extrêmement dangereux. Et alors, pour finir là-dessus, en plus de ça, ça vient heurter, parce qu'on m'a reproché à plusieurs reprises de ne parler que de ça. Bah oui, mais j'y peux rien, moi, si c'est omniprésent dans les médias depuis octobre 2023. Sachant que c'est le moment où j'ai commencé ma chronique télé, donc je me suis retrouvé effectivement face à un tsunami de propagande pro-israélienne, et que j'avais à traiter ça. Et que quand on traite ça H24 en laissant la parole en plus, très orienté à des gens comme Rafovitch ou l'ambassadeur d'Israël, eh ben on zappe d'autres sujets tout aussi importants, comme par exemple, et qui devraient faire la une des journaux, les conséquences de l'arrivée au pouvoir du RN dans certaines villes et de ses conséquences, notamment les coupes budgétaires faites, alors je prends l'exemple des amis du Secours populaire, ou évidemment aussi du planning familial et de tout ce qui représente un progrès, tout ce qui représente une avancée pour notamment les droits des femmes. Tout ça est dans le viseur de l'extrême droite qui potentiellement peut arriver au pouvoir, et ça n'est absolument pas traité, sauf de manière totalement marginale.
Il faut rappeler que les droits, la reproduction, les droits sexuels et les droits des femmes, c'est alors les gens vont être dans une position humaniste ou nanana, c'est d'un point de vue matériel, c'est la garantie de sauver des vies. C'est la garantie de faire que des jeunes filles, plus ou moins jeunes, ne meurent pas ou ne se suicident pas parce qu'elles ne puissent pas avorter. Ou qu'elles ne se fassent pas tuer par leurs compagnons parce qu'elles ne peuvent pas avorter. Ou ces ensembles de choses-là, sans parler des violences sexistes et sexuelles contre lesquelles le planning lutte activement. Et ces ensembles d'attaques sont terribles. Enfin, c'est vraiment en fait dans l'éloignement dans le temps par rapport avant le droit à l'IVG, aussi par rapport à ce qu'on a vécu pendant l'occupation et Vichy et le nazisme, on a oublié la violence terrible que les gens ont subie et l'horreur qui peut nous attendre, en fait.
Bien sûr, mais c'est surtout, j'ai envie de te dire, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, mais sur ce plan-là, c'est pas simplement une réduction budgétaire lambda. C'est un réel projet de société, un monde, enfin une France du moins, sans droit et accompagnement, comme tu l'as très bien dit, à l'avortement, à son choix de vie, au choix de son corps, c'est un choix de société et c'est un projet réactionnaire, un projet qui fait aller en arrière. Et j'ai envie de dire que des gens, je reprends l'exemple. Du Point ou de Franc-Tireur, je pense à Nora Bucini, qui soi-disant s'infiltre dans des milieux sans aucune preuve du tout. Donc elle s'infiltre évidemment dans les manifestations soi-disant, les manifestations d'LFI pour expliquer que il y a des propos antisémites sans en apporter la moindre preuve, et qui lui fait donc faire le tour de l'ensemble des médias mainstream pour balancer son narratif sans aucune vérification. Et puis elle aurait infiltré soi-disant des milieux woke avec une perruque rose complètement ridicule, et en plus elle en est fière. Je pense que ces gens-là, alors c'est vraiment un point de vue pour le coup, je pense que ces gens-là contribuent à ridiculiser les milieux pour le coup féministes, et par extension ridiculiser les militantes, en l'occurrence, puisque là c'était des femmes, les militantes du planning familial. Et je pense que tout ce qui va dans le sens féministe et du droit des femmes est ridiculisé et montré comme quelque chose d'islamo-wokiste et de taré aux cheveux bleus ou aux cheveux roses, de débilos avec des piercings un peu partout, et alors je dis pas que les gens qui ont des piercings sont débilos, je dis que eux les montrent comme ça, qui font du diabolo place de la République, en gros, hein, pour aller vite, dans leur narratif, et que elles et ils contribuent à cette normalisation d'attaques à la fois contre le féminisme, en le faisant passer pour quelque chose d'extrémiste, et comme je l'ai dit, pardon de me répéter, par extension à tout ce qui touche aux droits des femmes, et évidemment que le planning familial en fait largement partie.
Et ce qui est effrayant, c'est que normalement, quand une personne, enfin quand on est au bistrot et que des gens font ça, on se dit non mais Géraldine, Roger, tais-toi. Et que sur des plateaux avec des gens avec des formations équivalentes à Bac+5 servent la soupe, n'amènent pas la contradiction, n'invitent même pas des gens du planning, des militantes et des militants du planning qui sont invisibilisés par les médias mainstream et peut-être aussi qu'on les visite pas assez aussi chez nous, mais c'est vraiment terrible. Enfin, c'est,
ah bah,
c'est terrible.
Oui, ce qui est surtout terrible. Alors, je suis pas du tout fouteux, hein, je le précise.
Il n'y a pas de souci.
Je me rappelle d'une intervention d'un arbitre il y a très longtemps, quand Maradona avait, vous savez, marqué un but de la main.
Oui, c'était voilà, la main de Dieu.
Voilà, bravo. Il s'était justifié comme ça en disant c'est la main de Dieu. Et l'arbitre répond, c'est un arbitre français qui était interviewé à la radio, et il explique le problème, c'est pas tellement que ils mettent une main, ils mettent un but de la main. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que il peut se justifier en disant c'est la main de Dieu et revenir comme si de rien n'était. Mmh. Et je pense que c'est rigoureusement le même problème chez nous avec les chroniqueurs et les gens qui interviennent sur les plateaux. Quand tu parles de Bac plus 5, c'est à peu près le cas, je crois, de Rachel Kahn. Quand Rachel Kahn, une pro-génocidaire 3XXL, quand elle vient sur les plateaux télé, et une Rasselard de 3XXL, accessoirement, quand elle vient sur les plateaux télé et qu'elle dit que elle a pris le taxi et qu'elle a eu peur parce que elle a entendu des sourates du Coran. Ouais,
la sourate, elle était gravée sur le haut du taxi. Sur le haut de la cabine, en fait.
Alors, c'est un peu flou, mais on ne sait pas si c'est en français, en arabe. Alors, si elle lit l'arabe, piaté, hein, moi je dis respect. Parce que moi-même,
le foussa, hein, elle lit le foussa. Hein.
donc, c'est magique. Mais que ça appelait à la destruction d'Israël. C'est-à-dire, globalement, je crois que c'est 5 ou 6 siècles avant la création d'Israël et qu'évidemment, ça n'existe pas dans le Coran. Sans
c'est
avoir
plus
fait
que 5 ou 6 siècles. Hein. Mais bon, enfin, mais.
Ouais, je suis pas bon en calcul.
C'est pas grave, mais ça change rien.
C'est beaucoup plus. Oui, bien sûr, c'est beaucoup plus que ça. Voilà. Voilà. Alors, qu'elle le dise, qu'elle dise de la merde, admettons, mais qu'elle puisse revenir derrière sans coup férir et qu'elle puisse aligner bobard sur bobard. Comme elle le fait à chaque fois sur le plateau de CNews, le problème c'est qu'elle puisse revenir. Mmh. Le problème c'est que Caroline Fourest, malgré ses mensonges répétés, puisse revenir. Et là, je rends grâce pour le coup sur ce coup-là à Laurent Ruquier qui avait annoncé après un énième mensonge. Cette fois-ci proféré sur son plateau de divertissement là de l'époque, quand Émeric Caron l'avait prise en défaut et que le lendemain Laurent Ruquier avait été au courant de ce mensonge sur sa condamnation sur sa soi-disant victoire en appel à Versailles sur je sais plus quelle affaire de diffamation, il a dit clairement la semaine suivante que plus jamais il n'inviterait Caroline Fourest sur son plateau. Et il était, je pense, sincèrement énervé d'avoir été piégé par elle. Mais donc voilà, on a les preuves, on sait exactement que ces gens-là sont capables des pires mensonges et c'est démonté de manière systématique. Et ben pourtant, je reprends mon truc de l'arbitre, ils reviennent en toute impunité. Et c'est le cas, pour boucler la boucle, c'est le cas de Guillaume Herner, qui est toujours à l'antenne et qui ne sera pas dessoudé. Alors je le précise pour les gens qui ne sont pas qui ont la chance de pas être sur les réseaux sociaux, je précise que tout le monde, y compris le CRIF en premier, tout le monde est venu à la rescousse là de Herner en traitant les gens qui demandaient sa démission d'antisémites. Voilà, c'est le contre-uno, c'est le lance-flamme, l'extincteur du débat public. Et à force de traiter tout le monde d'antisémite, comme me disait récemment Guillaume Meurice, plus personne ne l'est. Et que ces gens-là non seulement utilisent l'antisémitisme, mais je pense, mais très sincèrement, hein, je pense que posons-nous la question, qu'est-ce que une grande partie de tous ces parasites de plateaux télé, de gens qui se remettent des médailles en chocolat les uns les autres et compagnie, qu'est-ce qu'ils seraient, qu'est-ce qu'ils deviendraient si demain, par chance, espérons-le, l'antisémitisme disparaissait. Plus rien. Ils n'auraient plus aucune raison d'être. Donc je le dis très tranquillement, ils ont pour la plupart, intérêt à faire prospérer l'antisémitisme, ou en tout cas le sentiment d'antisémitisme, en accusant par exemple la France insoumise d'antisémitisme, même s'ils n'ont jamais, jamais, jamais été condamnés pour ça, ils ont tout intérêt à continuer à faire ça de façon à exister. Et c'est là que je trouve que qu'est essentiellement le danger. Et je terminerai, pardon, j'étais un peu long, je terminerai par une parole de Ronnie Broman, franco-israélien, donc il a vécu en Israël, il est français. Ronnie expliquait que tous ces gens-là mettaient l'ensemble des juifs du monde occidental en général, mais de la France en particulier, en danger, tout simplement. Parce que leur militantisme pro-Israël de manière inconditionnelle englobe par capillarité l'ensemble des juifs et les met en danger et que des simples d'esprit évidemment font l'amalgame et ces gens, je le dis très tranquillement pour terminer, ces gens sont excessivement dangereux et il faut non pas le prendre avec un peu de légèreté et puis se dire ils disent de la merde, c'est pas grave, si c'est très très grave. Ces gens sont excessivement dangereux et ce sont les meilleurs carburants de l'antisémitisme, le vrai.
Et comme fait Guillaume Erner, de par leur accusation en faux en antisémitisme, pardon, en fait, ils ouvrent la porte aux vrais antisémites qui existent dans ce pays, qui sont organisés dans des groupes, des partis identitaires ou non, ou avec une candidate qui fait 42% aux dernières élections présidentielles, qui du coup maintenant savent que ils sont plus considérés comme des antisémites et du coup bien sûr qu'ils vont s'en donner à cœur joie dans leur politique, dans leurs propos quand Darmanin était du coup à dire les actes antisémites ont explosé en France, mais ça je veux bien le croire, il n'y a pas de souci. Mais par contre moi je veux les détails. Qui sont ces gens? Et à chaque fois, ils ne les mentionnent pas. Mais je suis quasiment sûr que ces gens, c'est les mêmes qu'avant. Ça veut dire les antisémites de l'extrême droite institutionnelle ou identitaire, terroriste, radicale et ultra-violente. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Et ils nous mettent tous... toutes et tous en danger en faisant cette manœuvre-là, parce que du coup permettent de couvrir de légitimer en délégitimant les autres en fait par l'accusation d'antisémitisme en disant c'est la gauche qui est antisémite, et vous par corollaire la droite et l'extrême droite ne l'est plus. Alors que historiquement, politiquement et même dans leur identité politique, ils sont profondément antisémites, xénophobes, racistes. Et je pense qu'il est important pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, ne laissez jamais rien passer. Il faut écrire dans les termes les plus polis qui soient et les plus bourgeois qui soient. Il faut ne pas lâcher les rédactions, il faut écrire à France Culture, il faut écrire à Quotidien, il faut écrire à tous ces gens-là et les submerger de courriers pour leur rappeler que la République, déjà, c'est nous et c'est censé être eux, en fait. Et qu'il va falloir très vite y retourner parce que ce sont nos principes sur lesquels on s'est accordé pour vivre tous et tout ensemble. Alors, bien sûr qu'on aimerait un dépassement de l'espace républicain pour arriver à une société plus égalitaire et centrée sur la collectivisation ou la plateformisation de l'ensemble des pans de la société. Et ça, on le souhaite de tout cœur. Mais voilà, il ne faut pas lâcher. Et je pense qu'il me manque... aujourd'hui, c'est vraiment de groupes ou de volonté citoyenne de vraiment de se focus sur ça et ne cesser jamais d'écrire, de signaler, de manifester, de saisir et faites-le surtout de façon organisée. Ça ne doit pas être un élan individuel, mais vraiment un élan collectif et politique Parce que si c'est ça à 9 mois ou 8 mois des présidentielles, n'imaginez pas que si on n'arrive pas à faire ralentir la machine maintenant, on va se prendre un 36 tonnes dans 3 mois, quoi.
Très clairement. Alors, pour votre information à propos de signalement,
oui.
Collectif, je vous informe qu'Aurélien Saint-Toul, donc député LFI, oui. Qui avait été notamment très actif au niveau de la commission parlementaire, la commission d'enquête parlementaire, pardon, sur l'audiovisuel, au moment de l'attribution des chaînes de la TNT, vient d'écrire que, ouvrez les guillemets, avec l'affaire Guillaume Erner sur France Culture, on a découvert le média spécialisé dans le bidonnage, donc c'est le fameux truc repris par Erner. Léon Média, soutenu moralement et matériellement par le CRIF, dans ces conditions, je demande à l'ARCOM de retirer au CRIF son statut de signaleur de confiance. Parce que au cas où vous ne le sauriez pas, l'ARCOM a choisi, notamment je crois la LICRA et le CRIF, comme étant signaleur de confiance. Alors que comme tu l'as très bien... D'abord, un, ils soutiennent, hein, le CRIF soutient ce bobard en expliquant que même si ce n'est pas vrai... eh ben c'est vrai quand même, à savoir que Mélenchon l'est antisémite, façon Aziza, et que ces gens-là n'ont plus aucune conscience. Et comme tu l'as très bien précisé, moi j'avais bossé là-dessus, sur l'opacité totale et absolue des signalements pour faits d'antisémitisme. Et j'avais demandé, mais comment vous... J'avais demandé au ministère de l'Intérieur, mais de qui vous prenez vos sources? Donc ils les prennent essentiellement auprès du CRIF, mais je m'étais posé la question de savoir si un signalement... Par exemple, il y avait écrit Jude, vous savez, sur, je crois que c'était Place de la Nation, sur un mur, et au prétexte que c'était sur un cabinet médical et que c'était un nom soi-disant, parce que j'en savais rien, à consonance juive, des gens comme Enthoven avaient écrit, je sais plus quoi, salopard à la. En direction de Mélenchon. Après, il a tout de suite effacé parce qu'il a compris qu'il y avait un problème, à savoir que Jude, c'était un tagueur et pas du tout, ça n'avait rien. Et puis en plus, Jude, même Jude, ça ne veut rien dire. Et pourquoi est-ce qu'ils auraient écrit ça à la limite, Juden, je ne sais pas quoi, mais ils auraient mis une croix gammée, quelque chose de plus. Donc non, c'était complètement bidon. Est-ce que ce genre de signalement-là est effacé ou pas? Ou quand il y a, vous savez, des fausses attaques antisémites, est-ce que c'est effacé de la comptabilité? Eh ben, on n'en sait rien. Et tout comme tu l'as dit, on ne connaît pas, ou rarement, ou alors quand c'est... quand c'est des jeunes de banlieue, suivez mon regard, à part ça, on ne sait jamais. Effectivement. Et ça pose un problème de transparence. On devrait évidemment avoir, non pas le nom, mais on devrait avoir le profil, effectivement, et la raison des actes antisémites, mais comme d'ailleurs les actes racistes, puisque la même question se pose. Hein. Vous savez, le vieux qui a tiré en direction des jeunes en proférant des trucs racistes et que ça n'a pas été retenu comme un acte raciste, je trouve que là, on a un léger problème technique sur ces questions-là. Et effectivement, il faudrait qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire, et voire même que les députés légifèrent sur cette question-là pour qu'on ait un peu de transparence. Donc vous pouvez aussi, et je termine là-dessus, pardon, vous pouvez aussi, dans ce que tu disais, dans des réponses collectives et des interpellations collectives, vous pouvez aussi écrire à vos députés, quel que soit leur bord, vous pouvez écrire à vos députés pour aussi exiger ce genre de choses.
Ouais. Et il va falloir se mobiliser, parce que, notamment, je pense, devant les rédactions et par des affichages, des banderoles, des manifestations, parce que il va falloir leur mettre la pression, et ça va être essentiel. Et en parlant de mettre la pression, je pense que c'est important, bon, malgré notre petite audience qui est de plus en plus grande, mais de parler du très rapidement du collectif Stop aux violences policières. Alors ils ont un Instagram. Donc c'est un collectif en partie de familles qui milite contre la loi permis de tuer. Donc voilà, et je pense que c'est important de rappeler que la lutte sur cette loi n'est pas finie du tout, et que il va falloir, il y a encore un ou deux ans pour se battre contre cette loi, et il va falloir leur donner de la force et de l'argent, et surtout les rejoindre dans la lutte. Parce que ça nous concerne toutes et tous. C'est littéralement le fait que demain, on sait très bien sur qui ça va tomber en premier. C'est les jeunes hommes noirs, arabes et les jeunes hommes des quartiers populaires en priorité. Mais tous les citoyens et citoyennes françaises seront concernés par cette loi et le fait qu'un policier soit présumé en situation de légitime défense et puisse avoir un droit de tuer sur quasiment... Enfin, sur n'importe qui. Sur n'importe qui.
Bien sûr. Je m'autorise à rendre hommage à Amal Bentounsi, dont le frère avait été tué d'une balle dans le dos et qui se bat depuis... Depuis presque 20 piges.
2012, très précisément, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que la mort de son frère date de 2012.
2012.
Peut-être un peu avant, je ne sais plus, je suis désolé.
Et qu'avait... Non, mais merci, parce que c'est moins de 20 ans, du coup, c'est une quinzaine d'années.
Oui.
On avait eu un échange, je crois, en 2016, si mes souvenirs sont bons. Et alors qu'elle avait été relaxée parce qu'elle avait fait un clip « Si vous voulez tuer en toute impunité, la police recrute », et c'était tombé sous le coup de la liberté d'expression, donc elle avait été relaxée. Et je l'avais eu au téléphone là-dessus, et en fait, elle me parlait déjà du droit de tuer qui était exigé par les syndicats policiers qui sont quasiment tous de droite extrême. Et donc, je voulais lui rendre hommage parce qu'elle se bat vraiment comme une louve sur ces questions-là depuis très longtemps et elle avait raison. Elle avait raison déjà la première avant tout le monde. Donc voilà, je voulais la saluer. Alors juste pour terminer sur les syndicats de police, vous noterez que comme par magie, d'un coup, en l'espace de quelques mois. La quasi-totalité, je dis bien la quasi-totalité des porte-paroles qui viennent sur les plateaux de télé sont comme par magie racisées. C'est marrant, hein.
Putain, j'avais pas vu ça.
Ah si, c'est très très drôle, parce que, pas drôle, c'est ironique. Mais d'un coup là, paf, je vois plein de racisés qui sont devenus porte-parole de la police, notamment après le meurtre de Naël. Au début, il y en avait quelques-uns, vous savez, il y avait des femmes d'origine maghrébine et ainsi de suite. Et puis, au fur et à mesure du temps, là, ceux que je vois sont à minima basanés, voire avec des patronymes qui sont souvent les victimes dont tu parles de la police. Et donc, il y a une espèce d'impression comme ça de vouloir donner des gales. Et faire des contre-unos a priori pour pas qu'on qualifie effectivement ces syndicats policiers d'extrême droitier.
Alors pour rappeler, hein, vous avez beau être racisé, vous pouvez être raciste. Hein, c'est
bien sûr.
Je sais que beaucoup de policiers. En interview et tout, ils disent « Ah, mais je peux pas être raciste, je suis noir, je suis arabe. » Si, vous pouvez être raciste, faire partie d'une institution raciste, souscrire à un projet raciste. D'ailleurs, une partie de la colonisation en Algérie s'est faite avec des troupes arabes, françaises arabes, qui soutenaient le projet colonial. Je pense notamment au colonel Youssef. Il y a un proverbe que j'ai oublié en arabe, qui dit, je sais plus, c'est toi Hakim qui me l'avait dit, ou même le colonel Youssef...
Youssef, c'est la même chose, mais oui.
Je sais plus ce qu'il disait, mais y compris le général Youssef est arabe ou un truc comme ça, et voilà. Mais je retrouverai le proverbe. Mais oui, mais tout ça pour dire qu'on est vraiment face à... Je sais pas quand t'identifierais ce moment où vraiment... moi, j'identifiais à 2015, mais peut-être que c'était bien avant. Peut-être que ça a toujours été aussi que les digues ont lâché et que le contradictoire, la vérification, en fait, c'est désystématiser des rédactions, quoi.
Oui. Oui, oui, c'est d'ailleurs pour ça. Avant, j'avais ce qu'on appelait des tops et des flops, et qu'en fait, les tops sont devenus des flops déguisés, et que donc j'ai arrêté parce que je trouvais vraiment compliqué de toujours avoir à rechercher des tops alors qu'il y en a très très peu. Mais le corollaire de tout ça, et je terminerai là-dessus, le corollaire de tout ça, c'est que on en vient. Je pense à quelqu'un comme Gallagher Fenwick, par exemple. Qui officie notamment sur LCI, on en vient à glorifier des... Alors, il est très bon, hein, Gallagher, il n'y a aucun souci, mais on en vient à glorifier et à caser quasiment, à placer à l'extrême gauche des journalistes qui simplement font leur travail. C'est-à-dire qu'ils sont tellement rares qu'on en vient à remarquer qu'ils font leur taf, quoi. Ce qui est quand même extraordinaire. Alors ça, c'était né avec, vous savez, les... tout ce qui est intox, désintox, décodeur et toutes les conneries comme ça, auxquelles j'ai participé, hein, donc je le dis en toute simplicité, en toute humilité du moins. Mais en fait, c'est quand tu fais intox, désintox ou quand tu fais décodeur, tu ne fais que ton travail. On passait pour des super-héros de l'information, alors qu'en fait, pas du tout. C'est d'ailleurs comme ça qu'est né, c'est comme ça qu'est né le petit journal, hein, l'ancêtre de Quotidien dont tu parlais tout à l'heure. Il est né de ce truc-là, c'est-à-dire qu'il est né que, au départ, je sais plus le cas, mais au départ, ils faisaient simplement leur travail et ils passaient pour des waouh là là les rebelles de l'information et tout. Non, c'est pas des. D'abord, ils mettaient en scène, hein, ils ont toujours mis en scène, et ça c'est problématique quand tu fais de l'information. Mais ils ont fait des montages bidonnés, enfin des trucs notamment avec Rima Hassan récemment. Mais au départ, ils faisaient juste leur taf, quoi, et ça paraissait complètement extraordinaire parce que on est dans un univers complètement sclérosé de l'information, de la non-vérification, avec cette fameuse phrase de Pujadas, que lorsqu'il y a un bobard sur un plateau qui est repris par un politique, qui joue du coup le rôle de journaliste, il dit « on va vérifier ».